19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beur FM.
Eh bien bonsoir pour la dernière de l'année, chers amis auditeurs. Et oui, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Et jusqu'à 20h, nous allons continuer d'analyser, de décrypter, de commenter l'actualité du beau monde sur ce plateau dans les informés des quartiers. Oui, pour la dernière de l'année, figurez-vous que nous allons nous attarder sur la loi immigration, mais dans toute une déclinaison dans toutes ses formes. À la fois, on va parler des allocations, parce qu'il paraît-il que, eh bien, tout simplement, dans le 93, ils sont très inquiets, se posent des questions, et la tension est à son comble. On parlera aussi de cette loi immigration, qu'est-ce qu'elle révèle avec les APL, avec les allocations familiales, bref, les contours de cette loi immigration, et puis nous nous intéresserons aussi, vous savez quoi, tout simplement, à tous ces départements de gauche qui ont décidé, eux, de ne pas appliquer cette loi, enfin la loi qui n'est pas encore promulguée, attention, hein, attendons quand même le Conseil d'État. Que des élus autour de ce plateau, mais également aussi un avocat. Et puis vous, au 01 53 48 3000, vous pouvez nous appeler au 01 53 48 3000. Solal se fait un plaisir de vous accueillir. Mais sans oublier aussi un sujet d'actualité, vous savez, c'est Rachid Nekaz. Souvenez-vous, Rachid Nekaz, c'était en pleine actualité algérienne. Hein, et puis là, il va revenir donc pour nous parler d'une requête en unité pour procès, un procès qui s'est tenu hier au tribunal de Créteil, concernant donc des causes, des nombreuses irrégularités ayant déclenché une procédure judiciaire. On va en parler dans une poignée de minutes, non pas avec Rachid Nekaz, mais avec un proche de Rachid Nekaz. Allez, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti, et en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Hassan, un proche justement de Rachid Nekaz. Bonsoir Hassan.
Bonsoir.
Alors Rachid, Hassan tout d'abord, vous êtes un proche, un très proche de Rachid Nekaz. Rachid Nekaz, rappelons qui c'est. C'est un homme d'affaires, c'est un homme engagé, il a été candidat aux élections aussi, hein, rappelons-le, hein, en Algérie. Il a participé à cette grande manifestation, le Hirak, hein, en Algérie. D'abord, comment il se porte, Rachid Nekaz?
Bon, là, il va bien, puisque bon, il avait des problèmes de santé assez graves. Donc là, il se soigne. Et donc, je pense que le moral est bon.
Rachid Nekaz reste toujours, selon vous, l'opposant principal qui a été libéré, notamment en Algérie. Hein, je parle d'opposant parce que, vous savez, il a été retenu là-bas. Il a fait de la prison aussi, hein, en Algérie.
Alors, monsieur, bon, pour résumer un petit peu, bon, monsieur Rachid Nekaz a tenté de se présenter deux fois à l'élection présidentielle en Algérie, en 2014 et en 2019. Il a été plus que une personne qui participait, puisqu'il a été quand même l'initiateur du Hirak. C'est quand même lui qui a mobilisé des milliers de foules, des milliers de personnes qui l'ont soutenu en Algérie. Donc, il a été vraiment l'initiateur, puisque ça a été un travail continu entre 2014 et 2019. Bon, il a été donc condamné de la prison en Algérie, trois ans et demi.
Ensuite, il a eu une grâce présidentielle, c'est bien ça, hein?
Alors, il a eu une grâce présidentielle de M. Tebboune. Et aujourd'hui, M. Rachid Nekaz n'est plus opposant en Algérie. Hein, donc, il n'est plus opposant. Donc, il est venu pendant qu'il était en prison en Algérie. On l'a donc condamné en France à 18 mois de prison. D'accord. Donc, qui était surtout lié un peu à toutes les actions militantes qu'il avait menées en France, qui étaient autour du, je ne sais pas si vous vous rappelez, un peu de, où il payait un peu les amendes des femmes handicapées.
C'était cette fameuse actualité où la loi était passée concernant donc le niqab, et on se souvient très bien où Rachid Nekaz faisait effectivement des sorties médiatiques en rappelant que qu'il voulait
neutraliser la loi
et puis surtout payer toutes les amendes des femmes qui n'acceptaient pas évidemment qui ne devaient pas se plier aux règles, hein, de la loi.
Voilà. Alors donc, il a donc mené ses actions. Bon, et malheureusement pour lui, ça a été quelque chose qui était relativement mal perçu par les pouvoirs publics, et pendant des années, donc il a eu tout un harcèlement à la fois des services fiscaux, de l'État, et qui l'ont pratiquement, mis à plat. Je veux dire que bon, aujourd'hui, Rachid Nekaz tous ces biens qu'il avait en France ont été saisis.
Hassan, juste pour qu'on comprenne, là en ce moment, il est où, Rachid Nekaz? Il est en prison?
Alors là, il était en prison jusqu'à hier. Donc là, il a été relâché sous bracelet électronique. Donc voilà, il a donc un bracelet.
Donc le procès qui s'est tenu hier au tribunal de Créteil, rappelons-le, pour quelles raisons d'abord ce procès, il tournait autour de complicité, hein, c'est ça
hein. Oui, ben, en tout cas, ce qu'on lui reproche tout simplement, c'est deux choses. C'est par rapport à des déclarations fiscales, d'accord? Et on l'accuse à tort d'avoir loué des logements indignes à des gens qui étaient dans la difficulté, des gens d'origine algérienne, donc qui pour les loger tout simplement. Donc, mais au-delà de tout ça, toute cette histoire est une affaire qui ne tenait pas trop la route, hein, mais c'était surtout pour lui faire payer son engagement en direction des musulmans de France, et il l'a chèrement payé, voilà. Donc aujourd'hui, Monsieur Nekaz est en France. Pour régler ses affaires médiatiques, puisqu'il aspirait à pouvoir s'expliquer devant la justice. Donc, visiblement, la justice a maintenu cette condamnation, a réduit sa condamnation à 12 mois, donc il a fait appel. Et aujourd'hui, M. Nekaz est plus tourné vers l'Algérie, et je pense que son objectif, c'est essayer de... C'est pour ça que lorsque vous le présentez comme un opposant... Au président algérien actuellement aujourd'hui, il n'est plus opposant. Je veux dire qu'il est dans une logique de construction, et il veut réellement apporter à l'Algérie et essayer de construire au mieux les choses positives dans le pays de ses parents.
Dans le pays de ses parents. Écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de ce procès qui s'est tenu au tribunal de Créteil? Qu'en est-il d'ailleurs, Hassan? Qu'est-ce que vous avez comme information?
Bah, disons que, comme je vous dis, hier, il y a eu une condamnation. Donc, M. Nekaz a fait appel, puisque pour lui, aujourd'hui, même si on l'a dépouillé de ses biens, même si on l'a réduit financièrement ou socialement à pas grand-chose, c'est quelqu'un qui a toujours été, qui ne s'est jamais défilé. Donc, il est venu s'expliquer. Et aujourd'hui, tout ce qu'il souhaite, c'est retrouver sa... En tout cas, c'est quelqu'un de digne, et donc tout ce qu'il souhaite, c'est qu'on ne le présente pas comme quelqu'un de malhonnête, alors qu'il a toujours été quelqu'un qui était direct et franc.
D'ailleurs, il y a un ouvrage,
Donc,
on l'avait reçu sur
oui, il a
notre
sorti
antenne,
un
hein,
livre.
qui
Oui, il avait.
s'intitule « Mon combat contre la dicture ». Ça, c'était à
En
l'époque, hein,
Algérie.
en 2022. Hein. Oui.
En Algérie.
Oui.
Donc, voilà, donc M. Nekaz, aujourd'hui, même si c'est quelqu'un qui est un peu décrié en France, mais je ne doute pas que c'est quelqu'un qui, dans les prochaines années, rebondira peut-être en Algérie. Voilà.
Eh bien, merci pour ces informations, Hassan. Et puis, évidemment, on tâchera de le recevoir ici lorsqu'il sera libre, Rachid Nekaz.
Voilà, je vous remercie de l'invitation. Allez,
Merci à
au
vous.
revoir.
Merci pour les dernières nouvelles concernant donc le procès qui s'est tenu hier au tribunal de Créteil. Merci infiniment, Hassan. Tout de suite, le face-à-face.
Les informés.
Les informés.
Le face-à-face.
Et le face-à-face, je vais présenter les informés des quartiers avec que des élus autour de ce plateau. Enfin, à quelque chose près, y compris notre avocat. Tiens, maître David Libeskind. Bonsoir,
bonsoir,
maître.
Comment
ça va?
Ça va, ça va.
Il a fait la coupe, maître.
Ouais, j'ai fait la coupe.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, les cheveux ont poussé, donc il fallait que je les coupe,
ouais,
tout
oui.
simplement.
Un petit coup de... Non, mais ça le rajeunit en plus, c'est bien. À vos côtés, vous savez, c'est l'élu de Creil, Jessica Elonguer. Bonjour, Jessica Elonguer.
Bonsoir à tous.
Un autre élu, c'est le conseiller régional, mais aussi élu local sur la ville d'Orly. C'est Philippe Nadjiboyaki. Bonsoir, Philippe Nadji.
Bonsoir à tous et à toutes.
Un autre élu, c'est l'élu de la Courneuve, du 9-3. Justement, il est avec nous ce soir. C'est Amine. Comment ça va, Amine Saha?
Très bien, et vous, Adil?
Tout va bien, merci infiniment. Vous savez quoi? Spécial les informés des quartiers, parce que je voudrais qu'on parle exclusivement des sujets qui concernent les habitants des quartiers populaires, notamment avec cette ambiance qui est toxique. C'est une déclaration où, en Seine-Saint-Denis, le vote de la loi, figurez-vous, immigration, nourrit des inquiétudes. Qu'est-ce qu'on entend par là? Vous, justement, vous êtes de la Seine-Saint-Denis, Amine Saha. Qu'est-ce qui alimente? Qu'est-ce qui devient toxique?
Bah écoutez,
l'ambiance est toxique. Alors dites-nous.
Il y a une inquiétude, en effet, parce que c'est un texte de loi qui, aujourd'hui, même s'il n'est pas encore promulgué, même si on estime qu'il y a un certain nombre de dispositions qui pourraient être retoquées par le Conseil constitutionnel, ça reste un texte qui est profondément xénophobe, qui
vraiment
remet en cause,
oui,
bien sûr, qui remet en cause à la fois le droit du sol, qui remet en cause, qui instaure un certain nombre de dispositifs comme la préférence nationale. Et évidemment, dans un territoire comme la Seine-Saint-Denis, où il y a, où toutes les nationalités, toutes les communautés se côtoient, vivent ensemble, et bien évidemment, ça inquiète au plus haut point les habitants de la Seine-Saint-Denis.
Mais se dit quoi quand vous dites qu'ils sont inquiets, ça veut dire quoi?
D'abord, ils s'interrogent.
Ça se traduit par quoi, justement?
Ça se traduit par des discours d'inquiétude, comme vous l'avez dit, où les gens se disent déjà qu'il y a une précarité quand même dans ces territoires. On le sait, il y a la pauvreté, elle est particulièrement présente. Il y a aussi un chômage de masse. Mmh. Et ils se disent, est-ce que demain, je vais pouvoir continuer de percevoir mes aides au logement? Est-ce que je vais continuer de percevoir mon RSA? Est-ce que je vais pouvoir tout simplement continuer de vivre décemment?
Vous dites et ça donc, parce que vous savez quoi? Je vais vous apporter une info, enfin c'est pas à vous que je vais l'apprendre. À La Courneuve, c'est votre ville.
Oui.
40% de la population est étrangère.
Alors, mais au-delà de ça, c'est aussi toutes les nationalités se fréquentent à La Courneuve. C'est une ville monde, comme il y en a d'autres. Hein,
donc ça revient à un caractère particulier, ce que vous disiez.
Mais évidemment, les habitants des quartiers populaires, une fois encore, ils sont davantage stigmatisés, montrés du doigt par un texte comme celui-là, que dans le reste du pays, c'est une évidence.
Et pourtant, le chef de l'État, pendant son discours, enfin pendant l'interview, sur France 5, il faisait référence plutôt de l'immigration au sein des quartiers populaires, comme cette loi d'immigration qui était plutôt positive pour eux.
Non, mais la réalité, c'est que je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette interview, mais c'est quand même une franche rigolade autour de ce plateau. On ne peut pas dire qu'on avait affaire là à une vraie interview politique d'un président de la République. On l'a bien vu, d'ailleurs, il y a des images terribles qui sont sorties de cette interview, où on voit le président de la République se fendre la poire avec l'ensemble des journalistes qui sont présents en plateau. Enfin non, ce n'était pas une interview présidentielle digne de ce nom, surtout au lendemain d'un vote aussi important au Parlement.
Jessica Ellonger, tiens, on va s'intéresser aussi à l'élu de Creil.
Bien, écoutez, de toute façon, quand on parle de la Seine-Saint-Denis, en effet, il y a en effet beaucoup d'étrangers, il y a un chômage de masse qui est énorme, et il y a des conditions qui sont souvent très défavorables. Je ne parle pas de la question notamment de l'accès au logement, qui est très compliqué. On a des logements où il y a 9, 12 personnes dans un 40, 50 mètres carrés.
Une suroccupation importante.
Exactement. Donc, la loi, elle est terrible. La loi, elle est terrible puisque, en effet, on touche aux APL, on touche à la possibilité pour un enfant qui est né sur le territoire français d'avoir accès à la nationalité et devrait la demander à partir de 16-18 ans. Bon, tout ça pour dire que cette loi, c'est du n'importe quoi. Cette loi, elle entrave en tout cas les valeurs de la République. Et quand on parle du brassage de nationalité qu'il y a dans les banlieues, moi, je veux quand même dire que cette loi, elle cible pas tous les étrangers. Parce que je suis désolée, quand là on parle des étrangers, on parle pas de ceux qui viennent du Canada. On parle pas non plus de ceux qui viennent de certains espaces géographiques où on pense que finalement ces étrangers ne sont pas des étrangers puisqu'ils font partie.
En gros, vous faites allusion aux Africains.
Exactement,
c'est
mais
ça.
À un moment,
elle cible les Africains. Oui. C'est ce que vous voulez nous dire, en gros.
Elle cible, en tout cas, des populations qui sont souvent confrontées.
Qui viennent du Sud.
Qui viennent du Sud, c'est ça.
Qui sont souvent discriminées aussi sur le marché du travail.
Maître Limeskid, est-ce qu'on peut s'adresser, vous, avocat, je m'adresse à l'avocat. Est-ce qu'on peut dire, oui, on s'adresse aux Africains, mais pas aux autres? Ça veut dire la communauté européenne, en gros. C'est ce qu'on laisse entendre.
Alors, au début, je pensais comme notre ami, que c'était Aminsa, une loi xénophobe, etc. Donc avant de venir, je l'ai bien étudié.
Ça tombe bien. Parce que
j'avais commencé en fait à écouter les plateaux télé hier, etc. Voilà. Et en fait, j'ai étudié. Alors sur ce que tu viens de dire, je suis d'accord pour la disposition qui concerne en fait les étudiants. C'est-à-dire que dans la loi, en fin de compte, les étudiants qui voudront étudier en France, donc les étudiants étrangers évidemment, devront apporter une caution. Donc là effectivement ça pénalise en fait les pauvres entre guillemets. Laisse-moi terminer. Donc ça pénalise en fait les étudiants d'Afrique, enfin les personnes d'Afrique qui veulent étudier à Paris et non pas le nord-américain qui voudra étudier à Paris. Là effectivement ça cible la communauté africaine, hein, si je veux dire.
C'est discriminant, non?
Voilà, c'est tout à fait. Non, mais c'est discriminant.
Non, mais je pose une question.
En fait, ça discrimine en fait les étudiants dont les parents ne sont pas fortunés, quoi. Parce que les étudiants africains, enfin, sans vouloir trop me tromper, ne pourront pas en fait payer une caution. Ça existe en Allemagne, hein, c'est une caution de 11 000 euros. Donc ne pourront pas. Après, concernant les autres mesures, effectivement, ça cible pas forcément, en fin de compte, à mon sens, la communauté africaine. Mais effectivement, il y a une rupture d'égalité, puisqu'en fin de compte, on va privilégier en fait les étrangers donc sur le territoire français qui travaillent par rapport à ceux qui ne travaillent pas. Et on parlera, faudra bien préciser, je pense à l'antenne, quelles sont les dispositions concernant l'APL et les allocations
familiales. On en parlera tout à l'heure.
Parce que le débat, il est un peu hystérisé entre ceux qui disent que c'est une loi xénophobe, entre guillemets.
Et vous vous trouvez là. Elle n'est pas xénophobe.
Enfin, qu'on me dise en fait la mesure. Alors, c'est une loi effectivement dure. Et de toute façon,
Pas xénophobe.
Je suis complètement opposé à ces dispositions. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ma ligne. Mais en tout cas. Là, tu parlais
Mais vous dites quoi, vous ? Non.
Non, elle n'est pas xénophobe. En fait, c'est une loi qui durcit, en fait, la réglementation pour les étrangers. Mais je ne vois pas de disposition xénophobe. Il y a une rupture des qualités, effectivement, entre les citoyens français, donc ceux qui ont la nationalité française et ceux qui seront étrangers, hein, par rapport à l'accès aux allocations familiales. Mais il n'y a pas de xénophobie dans la loi.
Alors, justement, parce que vous parlez quand même, vous laissez entendre. Ah oui, j'ai pas entendu Philippe Nadjiboye qui, pardon. Excusez-moi.
Non, mais c'est cette loi qui a été durcie, et il faut remercier la gauche la plus stupide du monde de l'avoir.
Clochette.
C'est une réalité. Clochette. C'est une réalité.
Vous avez la gauche qui est représentée là.
Là, on a une très belle
gauche.
Amine
Saha,
Amine Saha est une très belle gauche, une gauche humaniste.
Ah, bah non, vous avez dit la gauche est stupide.
Non, je dis celle de l'Assemblée nationale, ça a été la gauche la plus stupide du monde, puisqu'elle a accepté les votes du Rassemblement national et de la droite, et elle a été contente de crier victoire. Vous vous rappelez, c'était il y a à peine une dizaine de jours. Hein, ils sont vantés partout, super, on a mis le gouvernement en déroute et donc ils ont pensé juste à faire tomber le gouvernement. Sauf que la commission mixte paritaire a durci la loi qui venait du Sénat, qui était déjà assez dure. Mais la loi de base, en vérité, celle que Darmanin proposait, c'était être juste avec les gens bien, avec qui, d'autant plus qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu renvoies les médecins étrangers, on peut plus aller à l'hôpital, on est mort. Je préfère le dire tout de suite aux fachos qui pourraient nous écouter par hasard. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent BRFM pour pouvoir essayer d'avoir des éléments de langage et nous mettre leur haine au quotidien et être très dur avec celles et ceux qui nous pourrissent la vie et qu'on veut plus d'eux. Les mecs qui viennent faire des crimes ou de la délinquance dans notre pays.
Arrête ce discours.
Non, on ne veut plus
d'eux. C'est honteux.
Il y en a, mais non, c'est pas honteux.
C'est honteux.
C'est pas raciste.
Attendez, on marque juste une pause. Vous allez lui dire, vous allez lui répondre les raisons pour lesquelles c'est honteux et que c'est raciste. Mais justement, parce que débat, j'ai besoin qu'on le pose. Parce que j'entends plusieurs sons de cloche. Et franchement, c'est notre rôle d'en parler. C'est important. Si vous jugez que Philippe Nadjiboye, ce qu'il est en train d'avancer, évidemment, comme propos, ce sont des propos xénophobes et racistes, vous allez nous dire pourquoi.
Oui,
à tout de suite.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés des quartiers, vous le savez, on poursuit. Et justement, c'est tendu, c'est chaud, c'est le but aussi des informés. D'en parler avec Jessica Langer, Maître David Lebeski, Damien Saï, enfin Philippe Nadjiboye, qui, selon le Maître David Lebeski, tient des propos qui sont à la fois honteux et xénophobes. Pourquoi, Maître ?
Tout à fait. Alors, peut-être il pourra les rappeler, parce qu'il y a une...
Ah, mais je dis simplement que les racailles étrangères, on n'en veut plus en France. Ouais. Et on va les renvoyer chez eux, tranquillement. Parce qu'ils nous portent préjudice à nous, dans nos quartiers. Et on va arrêter de les couvrir à cette gauche bien pensante qui a fait que de partenariser, nous coloniser et nous laisser croupir dans nos ghettos au lieu de nous faire des bibliothèques qui nous faisaient des terrains de foot. Aujourd'hui, on se retrouve avec ça et on se retrouve avec le Front National.
Qu'est-ce qui vous gêne dans ce qu'il dit ? C'est quoi ?
Inadmissible et intolérable, en fait. Il commence à parler la loi en parlant des racailles étrangères, laissant entendre en fin de compte que les personnes qui viennent en France, en fait, les personnes étrangères viennent ici commettre des délits, des crimes et qui restent impunis.
Il y en a,
mais c'est pas la majorité. Ils sont très loin d'être la majorité.
C'est pas ce que j'ai dit.
Commencer d'expliquer que cette loi va permettre en fait d'éliminer entre guillemets la racaille étrangère et de les renvoyer chez eux, c'est inadmissible parce que c'est pas non plus l'esprit de la loi. Alors on laisse entendre sur les plateaux télé que c'est l'esprit de la loi. Non, parce que quand tu durcis le regroupement familial, c'est pas pour envoyer les racailles entre guillemets étrangères chez eux. Quand tu durcis les APL et les allocations, les conditions d'octroi de l'APL et des allocations familiales, c'est pas pour rapatrier, alors, entre guillemets, les racailles étrangères qui sont venues en France.
Bon, tu déformes mes propos. Ouais, c'est important.
C'est important. Je ensuite, c'est Aminsa, parce que Aminsa veut vous répondre. Ouais, vous avez quand même taclé la gauche.
Bien sûr, bah évidemment.
Je dis que
le projet de loi initial de Darmanin, c'était quoi? C'était de régulariser celles et ceux qui travaillent et qu'on a besoin en plus, non simplement pour notre démographie, non simplement pour nos retraites, mais aussi pour nos caisses de sécurité sociale. Ça, je renvoie ça aux fachos. Mais en même temps, de pouvoir renvoyer plus facilement les racailles qui nous posent un réel problème. Voilà. Et ça, c'est factuel. Donc j'attends
Et la régularisation des sans-papiers, c'est Emmanuel, je signale.
Ah non, mais attends, le problème, c'est que cette loi n'a pas pu être débattue, la loi de Darmanin, grâce à la gauche la plus stupide de France.
Non, mais la mesure phare.
Et donc,
la loi Darmanin, c'était la régularisation des sans-papiers.
La mesure phare, oui, bien sûr.
Oui, bah, la mesure phare est restée. La loi, elle y est.
Oui, non mais simplement, elle a été durcie sur justement les APL, sur les prestations sociales, sur le regroupement familial, sur
la... Oui, mais parce que tes amis du RN ont voté pour cette loi. S'ils avaient voté contre, cette loi ne sera pas passée.
Justement.
Et à la base,
Non, je peux pas te laisser dire ça. La loi de base était pas au tip top comme on l'aurait pu le vouloir, mais elle était juste méchante avec les méchants et bonne avec les bons.
Sauf que là, elle est méchante avec les méchants.
Attendez,
Philippe Nadjima Bouriakib. Je voudrais juste qu'on s'intéresse aux habitants des quartiers populaires. Pourquoi? Parce que j'ai quand même deux personnalités là, Maître David Libeskind, mais également aussi Jessica Langer, Aminsa aussi. Il le laisse entendre en tout cas que ceux qui sont concernés par cette loi, ce sont les immigrés, les Africains et les étudiants étrangers.
Mais bien sûr, c'est la loi immigration. C'est la loi immigration, donc forcément, elle concerne tous les immigrés.
Mais sauf que l'avocat nous a rappelé tout à l'heure que c'est discriminant lorsque vous vous adressez aux étudiants africains et pas aux autres.
Mais non, tu t'adresses à tous les étudiants maintenant.
Ah bon, maître Libeskind.
Tu t'adresses à tous les étudiants maintenant. Je suis désolé. Ah, écoute.
La majorité des étudiants étrangers qui étudient en France. Il y en a à peu près 100 000 par an, hein, d'accord?
C'est ça, c'est le chiffre.
Elle vient de pays francophones, la majorité des pays d'Afrique. Aminsa, il veut vous répondre parce que vous avez taclé la gauche, justement.
Moi, je voulais surtout répondre à Philippe Nadjiboyaki au sujet, quand il dit que la gauche est la plus stupide du monde, parce qu'en réalité, elle s'est accoquinée avec le Rassemblement National au moment du vote sur le rejet préalable à la discussion. D'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que il y a eu un débat au sujet de ce texte. Alors, il n'a pas eu lieu dans l'hémicycle, il a eu lieu en commission. Il y a eu plus d'une cinquantaine d'heures de débat sur le projet de loi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsqu'on siège dans l'opposition, et c'est le cas de l'ANUPS, et c'est le cas du Rassemblement National, on peut évidemment voter un rejet préalable à l'étude de ce texte, mais c'est lié, ça peut être lié à des arguments totalement antagonistes. Même si le résultat au final, c'est que ça a été voté, en effet, d'ailleurs les Républicains aussi ont voté cette motion de rejet. Mais quand on vote pour, comme c'était le cas il y a quelques jours, et que justement le Rassemblement National qui est dans l'opposition, quand on vote pour, la réalité c'est que ça emporte forcément une forme d'adhésion. Quand on vote contre, on peut voter contre quelque chose pour des raisons totalement diverses, même si elles aboutissent au même résultat. Mais la réalité, c'est que quand on vote pour, eh ben on le fait par adhésion. Et c'est précisément ce qui s'est passé il y a quelques jours, lorsque ce projet de loi a été adopté. Il a été voté par le Rassemblement National, sur proposition, évidemment, avec M. Ciotti, qui a fait les entremetteurs entre le groupe Renaissance, ou en tout cas la majorité présidentielle, et le Rassemblement National. Il a été le pont,
les habitants des quartiers populaires. Ils vous disent quoi quand ils vous interpellent? Lorsque vous échangez avec eux, lorsque, évidemment, vous allez rencontrer les uns et les autres, ils vous disent quoi? Ils sont inquiets, ils ne sont pas inquiets, ils sont blessés, comme certains, parce que beaucoup sont blessés par cette loi immigration, parce que ne touche pas eux directement, mais ça touche leurs grands-parents, souvent.
Dans nos quartiers à Adil Farkan, il y a des gens qui sont issus de l'immigration. Il faut l'entendre. Il y a des gens qui sont eux-mêmes immigrés, qui sont étrangers, même s'ils sont devenus français, ils ont des parents qui sont immigrés, qui sont peut-être parfois pas français, ils ont des grands-parents, des arrière-grands-parents, parfois ils sont français même depuis plusieurs générations, mais ils ont toujours un attachement quelque part à leur pays d'origine ou celui de leurs parents. Et donc, évidemment, quand on parle d'étrangers, ils se sentent concernés, même s'ils sont français, ils se sentent concernés parce qu'ils ont cette double culture. et ils aiment la France, mais alors, malgré ça, alors, ils se sont quand même concernés. Non,
mais, il faut l'entendre. Libeski, non, et ensuite, mais, après, Jessica Longuerre.
Alors, rapidement,
ensuite, je voudrais entendre du côté d'Orly, voilà, quel son de cloche on a. Hein.
Rapidement, pour rassurer ceux qui nous écoutent, normalement, bon, la loi n'est pas en vigueur, déjà, il faut bien le dire, elle ne va pas concerner, en fin de compte, les étrangers actuellement en France. C'est les étrangers qui viendront après.
Il n'y a pas, voyez, y a pas bon, d'effet rétroactif.
Bah oui, voilà, il n'y a pas d'effet rétroactif, en principe.
C'est là-bas.
Donc voilà, donc faut quand même le dire, quoi. Parce qu'évidemment, quand on entend les plateaux télé, on a l'impression que
Il y a une volonté d'hystériser le débat.
Voilà,
c'est
une volonté d'hystériser le débat.
Mais juste sur une chose, sur une disposition dans ce texte, c'est celle du droit, la remise en cause du droit du sol. Ça, c'est éminemment important. Parce que imaginez-vous quand même, on est en train
droit
de dire.
Droit du sol.
On est en train de dire à des gens, à des enfants qui vont naître sur le territoire français.
C'est ça.
Ils vont naître, ils font pas le choix de naître ici.
On leur dit quoi?
Ils naissent ici, on leur dit, vous êtes pas français.
Vous êtes pas français.
Vous êtes pas français.
Mais non, c'est pas
comment
vrai.
Ça, mais non.
Parce qu'à 16, 18 ans, ils pourront choisir de l'être ou pas. À 16, 18 ans.
Donc de 0 à 16 ans, alors qu'ils n'ont pas fait le choix de naître ici.
Si
on est en France,
si on est en
France. Non, mais attendez,
c'est
incroyable.
Et remis en cause, on verra ce que va dire le Conseil constitutionnel.
Non, mais il va le rejeter, son droit du sol.
Voilà, à ce sujet, effectivement.
Mais moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Amine Sana tout à l'heure. Non, mais vraiment, c'est super important parce que justement, c'est technique. Il a dit, on peut voter un rejet avec des objectifs, enfin, avec des.
Différents,
même si le résultat est similaire. Mais justement, là, pourquoi le Rassemblement National a voté pour le rejet, ainsi que la droite? Parce qu'il trouvait que le texte n'était pas si dur. Et ça, la gauche
considérait que ça allait trop loin.
La gauche considérait que ça allait trop loin. Et les autres, ils disaient, le texte n'est pas assez dur. Mais justement, ils auraient dû laisser le texte et voter contre, et le Rassemblement National et la droite auraient voté contre, et la loi serait tombée. Le texte de loi n'aurait jamais été voté.
Ce que tu fais, c'est
mais le texte aurait dû tomber à partir du moment où il y a une motion de rejet.
En fin de compte, le RN a voté parce qu'il trouvait que la loi effectivement n'était pas assez dure. La gauche a trouvé qu'elle était trop dure, donc ils ont voté conformément à ce qu'ils pensaient à leur conviction.
Mais le droit du sol,
le résultat est le même. Ils l'ont fait pour
des raisons différentes. Sur cette question du droit du sol, Jessica Longuerre,
essentiellement revenir sur le fait que, en effet, il y a beaucoup de personnes des quartiers populaires qui sont touchées. Pourquoi? Parce que c'est pas, je dirais pas que c'est une loi xénophobe, mais par contre, je dirais que c'est une loi méprisante. Tout à l'heure, on l'a dit, la majorité, si aujourd'hui on devait renvoyer les médecins étrangers, on serait déjà dans une catastrophe, puisqu'on est déjà dans une forme de crise. Il y a des déserts médicaux presque partout.
Tout le pays est un désert médical.
Je finis. Mais
ils ont
bien
une
évidemment.
Qualification,
mais,
donc.
Non, mais je vais aller jusqu'au bout.
Il n'a pas tant, maître, c'est vrai.
Non, on manque de.
Ils sont surqualifiés.
Ils sont surqualifiés en manque de médecins.
La France a besoin, justement.
Je te repose la question. Qui sont les plus discriminés sur le marché du travail?
Oui, vous avez raison.
Aujourd'hui, on nous dit qu'à partir d'un certain temps, si vous n'avez pas travaillé, vous ne pouvez pas bénéficier. Mais qui sont les plus discriminés sur le marché du travail?
C'est vrai.
Donc, à un moment, il faut bien prendre en considération que cette loi, elle cible et elle méprise. Je ne dis pas qu'elle est xénophobe.
Mais
à partir du moment où on comprend le contexte politique, démographique dans lequel on est, qu'on sait que c'est les Noirs, les Arabes et les autres qui sont toujours discriminés, qu'on sait qu'il faut attendre, et même parfois quand ils sont français, c'est même pas une question d'étrangers, même quand ils sont français, on leur demande des tralala. Donc à un moment, comment vous voulez qu'ils s'en sortent? Mais je suis désolée.
Merci la gauche.
C'est des personnes qui vivront dans des villes à 9, à 12, en Seine-Saint-Denis, ils vivent à 9, à 12. Alors si on coupe aujourd'hui les aides, moi je sais pas comment les gens vont survivre. C'était déjà la tension.
Merci la gauche. Elle a raison, Jessica, c'est que il y a le texte, comment il est écrit, etc. Mais il y a aussi l'application du texte. C'est-à-dire qu'une fois appliqué le texte, on sait vers qui il va, qui vont subir les contraintes. Ce sont toujours les mêmes, ceux qu'elle a cités, les Noirs, les Arabes.
Voilà.
On marque une pause et on se retrouve justement parce que vous m'avez permis une belle
aussi,
transition. C'est quoi?
Les Chinois,
c'est que on parle d'une gauche. On parle d'une gauche qui tente de se ressouder. Et bon, on va en parler. Je sais que Philippe Nedjiboyaki, ça vous fait sourire. Et justement, eh bien, parlons-en. Cette gauche existe-t-elle encore? Est-ce qu'elle peut incarner quelque chose dans les trois ans à venir dans le cadre des élections présidentielles? À tout de suite. Et bien sûr, les informés des quartiers, vous pouvez nous joindre au 01 53 48 3000. Le standard est ouvert.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beur FM.
Les informés des quartiers avec Jessica Longuerre, qui était l'élu de Creil, avec maître David Libeski, avec l'élu de La Courneuve, Amine Sa, et enfin l'élu d'Orly et conseiller régional, Philippe Nadji-Bouriaki. Je devais parler de cette gauche, vous savez, mais juste avant, je vais ouvrir l'antenne. 01 53 48 3000.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Direction Maison Alfort, et c'est Shérif qui nous appelle. Bonsoir Shérif.
Oui, bonsoir Adil, bonsoir à vos invités.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de toute cette ambiance? Dites-nous tout.
Écoutez, pour vous dire, pour moi, il y a une atmosphère anti-étranger en France depuis que j'ai 20 ans, j'entends que ça.
Il a raison.
L'avocat David Libeskind, il dit vous avez raison. Alors s'il le dit.
Non, mais vous savez, sincèrement, prenez, parce que vous ne pouvez pas regarder, hein, il suffit d'aller YouTube pour regarder ce qui s'est passé en 90, en 88, en 96, même quand il y avait la gauche au pouvoir, on parlait déjà des immigrés. Même le Parti communiste, j'ai parlé des immigrés déjà, depuis longtemps. Je ne parle même pas des années 70.
Une fois que vous nous avez dit ça, qu'est-ce que vous voulez nous laisser entendre, mon cher shérif? En gros, une fois que vous avez dit ça, 20 ans, vous entendez parler de ces discours. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là?
Ma question, c'était pour certaines personnes qui disent que ça touche uniquement les immigrés qui vont arriver. Mais le climat qu'on a créé actuellement, ça veut dire même si vous êtes français, moi je suis français, mais je ne suis pas considéré que je suis français.
Ouais. C'est ce que j'examine ça tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des Français de papier.
Macron, je ne parle même pas de Dioté, de Marine Le Pen et autres, et autres, et autres.
Attendez, votre question, elle est excellente, shérif. Hein.
Oui.
Elle est excellente. On a un avocat ici, c'est David Libeskind. Qu'est-ce qu'on répond? Français de papier, c'est terrible. Il dit, shérif, en gros, je suis français, mais on ne me considère pas comme français. En gros, les Français de papier. Merci, shérif, d'avoir appelé au 015348 de maison. Excellente. Oui, allez-y rapidement, puisqu'on a beaucoup d'appels.
Pour prouver mon argument, c'est que 70 ou 80% de Français disent qu'il y a trop d'immigrés. Vous savez pourquoi? Parce que moi, vous et les autres, qui sont français réellement, ils ne sont pas considérés comme des Français.
Shérif, j'ai très très bien compris le sens de votre question et je pense que l'avocat aussi. Maître Libeskind, ouais, alors mais... vous répondez quoi? Mais attendez, ils sont nombreux, c'est ce que disait Aminsa tout à l'heure. Hein.
En fait, bon, c'est
vous dites quoi, shérif?
Non, mais c'est Terreb qui pense ça, parce qu'en fait, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, en fait. Il y a toujours pas une politique, dans les faits.
Français, dans les faits, dans les papiers.
Les personnes d'origine nord-africaine, et qui sont français, hein,
ou africaines,
qui sont nées en France, la plupart, bah oui. 90%.
Quatrième génération,
voilà,
aujourd'hui.
Tout à fait, quatrième génération, sont discriminées. L'accès à l'emploi, l'accès au logement, alors je me rappelle l'accès aux boîtes de nuit. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est, mais dans les années 80-90, il y avait tout un ramdam dans les médias parce qu'ils étaient discriminés à l'entrée des boîtes de nuit. Mais c'est terrible, en fait. C'est terrible. Et pour vous dire, moi, c'est pareil. Hein, je suis d'origine étrangère, j'ai un nom germanique, mais c'est mon arrière-grand-père qui a immigré en France. Moi, je n'ai jamais été discriminé. Ce qui démontre, en fin de compte, que la discrimination, en France, a toujours été ciblée.
Ça existe.
C'est personne d'origine du Maghreb, algérienne, marocaine, tunisienne. Et on n'a pas réglé le problème, et c'est vraiment malheureux, malgré toutes les marches qui ont été faites contre la discrimination, contre le racisme, malgré que la gauche a gouverné notre pays pendant plus d'une décennie, c'est malheureux qu'aujourd'hui, qu'on pense encore ça. Quoi.
Si vous permettez, je vais accueillir une femme qui s'appelle Samira, qui nous appelle de Colombes. Bonsoir Samira.
Bonsoir Adil, salam alaikum.
Alaikum salam, bienvenue. Allez-y, on vous donne la parole. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Dites-nous tout, ma chère Samira.
Alors, moi je vais vous dire de tout. En fait, je suis native du Nord. Donc moi, je suis née à Cambrai dans le 59 et j'ai grandi là-bas. Le racisme, je l'ai vécu, même en étant petite. Je suis née en 70, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai 52 ans. J'ai grandi, on va dire, avec, parce que là-bas, les gens étaient vraiment, ils nous pointaient du doigt, parce que on était des Maghrébins, il y avait beaucoup d'Algériens, Marocains là-bas, et donc on était différents, mais vraiment, je l'ai ressenti. Je suis partie du Nord, pour des raisons professionnelles, je suis montée sur la région parisienne, je me suis sentie super bien, parce qu'en fait, j'ai pas du tout ressenti de racisme à l'époque, hein. Je suis montée en région parisienne dans les années, en 94, donc voilà, je me sentais bien. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je retourne en arrière. À l'époque où j'étais jeune, vraiment jeune, adolescente, où j'étais même beaucoup plus jeune, et je ressens aujourd'hui le racisme qu'il y avait à l'époque dans le Nord, où les gens le disaient ouvertement.
C'est terrible ce que vous dites, Samira, c'est terrible ce que vous dites, parce que j'ai le sentiment qu'on a fait 20, 30 bons en avant, et là, vous voulez nous renvoyer à 20, 30 en arrière de nouveau. Jessica Longuerre, elle veut vous répondre, l'élu de Creil, justement. C'est Samira.
Mais justement, Samira, elle a totalement raison. En fait, elle revient révéler un débat qu'il y a depuis de longues années. C'est aujourd'hui, comment on reconnaît un étranger par son faciès? Aujourd'hui, quand on parle dans cette loi sur l'immigration, c'est qui les personnes qu'on va contrôler pour savoir si leurs papiers sont à jour? C'est pas le Canadien, c'est pas l'Américain qui est blanc aux yeux bleus,
Jessica, elle est venue
grand,
etc. Déterminée ce soir. Elle a envie d'en découvrir avec la lettre.
C'est qui qu'on va. Les policiers vont cibler qui? Je suis désolée, à un moment, il faut qu'on se dise la vérité.
Pourquoi?
Mais pourquoi pas?
Pourquoi? Là, attendez, vous le dites avec un ton énervé. Pourquoi?
Non, pourquoi?
Philippe Nadjibo,
pourquoi on cible pas les Asiatiques?
Bah, dites-nous.
Pourquoi?
Bah,
non, mais qu'on se le dise entre nous, qu'on se parle dans notre communauté. Qu'on se le parle, à un moment donné, qu'on se dise la vérité.
Allez-y.
Pourquoi? Pourquoi on se faisait recaler de
Samira, elle veut se permettre. Samira, vous écoute. Samira, il vous écoute, Philippe.
Alors, si je peux me permettre. Pourquoi nous? Parce que on est des sauvages. Voilà, on va dire ce qui est.
Ah non, je suis pas d'accord.
C'est généralisé de dire ça. Regardez, il y a plein de gens avec plein de réussite. Regardez autour de ce plateau. Est-ce que Amine Saïd, c'est un sauvage? Est-ce que moi, je suis un sauvage? Est-ce que Jessica Longuet est sauvage? Est-ce que Philippe Lévy est sauvage?
Non, mais
Adil. Non, moi, je trouve que dire ça, c'est embarquer tout le monde et banaliser
ça. Non, je rejoins l'avis de Samira. Sérieusement, on se le dit entre nous.
Attendez, Samira. Philippe Nadjibo
Yaki.
Et ensuite, maître
du. Attends, s'il te plaît, vraiment, deux minutes sans me couper. Moi, j'aimerais que les auditeurs et les auditrices écoutent bien ce que je dis et ils me disent si j'ai raison ou pas. Quand on est entre nous, en famille, entre cousins, qu'est-ce qu'on se dit franchement entre nous? Il y en a marre de nos frères qui nous ressemblent et qui ouvrent leur gueule tout le temps.
Mais laisse-moi finir.
Ce que je veux dire, c'est que cette minorité, elle est visible. Il y en a marre de nos frères qui vont en boîte de nuit et qui foutent le bordel. C'est la vérité, il faut qu'on arrête de ne pas se le dire.
C'est
cette gauche qui a voulu nous fermer la bouche, elle a donné aujourd'hui un tremplin
national. Samira, vous dites quoi?
C'est la réalité.
Attendez, s'il vous plaît. Moi, je trouve qu'il faut pas prendre cette minorité et en faire une généralité. Il n'y a pas de pire que de généraliser.
Je dis simplement, Samira. Pourquoi il n'y a pas de problème avec les Chinois?
Samira.
Je te rassure, les Blancs d'origine française foutent aussi le bordel en boîte de nuit.
Voilà.
Les plus grands criminels ne sont pas d'origine maghrébine. Hein.
Maître David Libeskind, les tueurs en série, les fourniraient des machins.
C'est tous des Blancs.
Alors, Samira.
D'origine européenne.
Samira.
Voilà. J'habite à Colombes, pour tout vous dire. J'habite, moi, dans un quartier tranquille, mais vraiment privilégié. Je vais faire mes courses dans un secteur, pour pas le nommer, où il y a un grand centre Leclerc. Il n'y a que des Maghrébins, des gens de chez moi, parce que je parle avec eux, du Maroc, des Algériens. Quand je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites ici à faire la manche? Je dis, pourquoi vous n'êtes pas mieux chez vous, en fait? Ils disent, oui, mais non, on n'a pas. En fait, ils se cherchent des prétextes. On va les aider. Écoutez bien, moi, ça m'est arrivé. Je les ai aidés financièrement, même au niveau vestimentaire. Qu'est-ce que je vais voir 15 jours après ou quand je reviens, ils agressent des gens. En fait, ils nous agressent nous. On les a aidés, mais ils nous agressent. Donc, à un moment donné, moi, je suis née en France, je travaille en France, mes enfants travaillent en France. Je me dis, il y en a ras-le-bol parce qu'ils nous mettent tous dans le même panier, alors qu'on n'est pas du tout de la même manière. Je veux dire, on est traités de la même manière alors que nous, on est complètement différents.
Ce que vous soulevez, Samira, c'est un constat, évidemment, qui retrace une réalité. Amine Sarr.
Je suis même pas sûr que ce soit une réalité. Je pense que...
Ça existe, ça doit exister. Merci Samira, je vous libère.
Je vais essayer d'emprunter le même vocabulaire. Des gens qui foutent le bordel, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les sortes. D'accord.
Oui,
sauf que les médias, je suis désolé encore une fois de leur prendre, le climat actuel cible et fait un zoom sur certains. Et nous, comme Samira, qui extrapole là-dessus, en disant ceux qui foutent le bordel, c'est ceux-là. Non, si on regarde dans le détail un peu partout, il y a des gens qui foutent le bordel.
Mais comme disait Maître David Libeskind tout à l'heure, il est avocat, il est confronté à ça tous les jours.
On a réussi même à faire croire aux gens qui leur ressemblent que c'était eux le problème. Alors qu'il y a une majorité de gens.
C'est pas ce qu'on a dit.
Mais c'est ce que vous laissez entendre.
Non,
le racisme, vous avez imposé aux gens d'intégrer le racisme dans leur chair.
Exactement.
Et aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est eux qui se sentent coupables. Mais arrêtez.
Moi, on a réussi à faire culpabiliser.
Quand Jean-Luc fait une bêtise, vous pensez que Marie-Christine, elles sont concernées? Mais pas du tout. Pourquoi tu devrais te sentir concernée?
Parce que ça me retombe dessus.
Il y a Mohamed,
parce que
y a Rachid,
ça me retombe
qui a
dessus,
fait une bêtise.
Jessica. Parce que ça me retombe dessus et je me retrouve stigmatisée.
Mais pourquoi ça te retombe dessus?
Parce que j'ai la même couleur.
Ah ben voilà, donc c'est. Et ben à un moment donné.
Jessica, je dis que si nous ne sommes pas capables de tirer les oreilles de nos petits frères quand ils font des bêtises. Non, laisse-moi finir.
Est-ce que Dalí se sent concerné quand Fourniret fait des saloperies?
Mais oui.
Non, il n'a pas à se sentir concerné.
Arrêtez de mettre ce voile devant une réalité et qui a fait que gangréner et faire monter le Rassemblement National. Bah tu vas pas l'intégrer sauf que le Rassemblement National, ils vont voter. Et quand ils vont voter, ils vont pas faire de différence entre celui
grâce à ces discours-là qui vont voter pour le Rassemblement
National. Le Rassemblement National, ils votent parce que votre discours de paternaliste, de mettre le voile sur un vrai problème, de dire non, c'est pas vrai, machin, etc.
Les problèmes, on les met sous le tapis.
C'est ça, ils font que ça. Ils ont fait que ça pendant 40 ans, cette gauche.
Je voulais accueillir Samy de Champigny-sur-Marne. Justement, cette gauche, parlons-en justement, cette gauche, est-ce qu'elle peut se ressouder, cette gauche à Amine Sarr? Elle est passée où, la gauche?
Écoutez, Adil, moi, je l'appelle de mes voeux. Sauf qu'il faut quand même qu'on se dise les choses. Il faut qu'on soit un tout petit peu sérieux. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. La gauche ne peut pas se reconstruire, se recomposer autour des mêmes. Et surtout pas ceux qui ont fait 6,3% en 2017 ou 1,7% en 2022. Je suis désolé. Il y a des partis, je vais les nommer. Le Parti Socialiste a été un grand parti de gouvernement, un parti hégémonique et qui pense qu'il peut l'être encore. Je suis désolé, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Moi, je ne veux pas faire la publicité à qui que ce soit, mais quand il a fallu faire élire 150 députés à l'Assemblée nationale en 2022 lors des législatives, qui n'était pas prêt à se mettre aux côtés de Jean-Luc Mélenchon pour la photo, pour espérer être élu? Et je suis désolé, si aujourd'hui le Parti Socialiste peut jouir d'un groupe à l'Assemblée nationale de près de 30 députés, c'est notamment parce que ils ont bénéficié des 22% de Jean-Luc Mélenchon et certainement pas d'Anne Hidalgo qui avait fait 1,7%. Donc la gauche doit se recomposer, elle doit se rassembler. J'espère que ce sera le cas, mais ça peut pas être autour des mêmes.
Bonsoir Fatima, bonsoir, vous êtes avec nous, vous êtes parisienne. On vous écoute. Évidemment.
Merci de me prendre.
Mais je vous en prie.
Moi, je voudrais dire à Samira que moi, je ne connais pas de racailles. Il y a des faits divers et ils sont montés en épingle tous les jours.
C'est ce que disait Maître David de Libeskid.
Le gars qui a tué 15 personnes, il a tué son père. Est-ce que BFM et News, ils ont fait deux jours, trois jours sur ça?
Personne n'en a parlé, c'est vrai.
Imaginez que c'était un musulman. Imaginez si c'était un musulman. Je vais vous dire quelque chose. Alors, c'est les étrangers qui créent l'embolie dans nos services publics. C'est les émigrés qui créent l'embolie dans les services publics. C'est de qui, ça? Vous savez de qui?
Dites-nous.
Ah ben, ce n'est pas Marine Le Pen, c'est Édouard Philippe.
Oui, mais bon.
Oui. C'est un homme de droite.
Ce matin, je vais vous dire une autre chose. Ce matin, Stanislas Guérini, je suis à 100%, cette loi immigration, c'est 26 des 27 dispositions ou lois dans le programme de Macron. Je suis à 100% pour cette loi et si j'étais parlementaire, je l'aurais signée. Il salue tous les parlementaires qui ont signé cette loi. Alors moi, je voudrais dire à monsieur Stani, je ne sais pas quoi, je voudrais lui dire que la prochaine fois, s'il y aura
Marine Le Pen, oui.
S'il y aura Marine Le Pen et Macron, parce qu'ils veulent, il paraît qu'ils veulent changer la Constitution pour le remettre en
question une troisième
fois.
Ça, c'est pas vrai, ça.
C'est pas impossible. Mais vous avez raison.
C'est impossible.
Non, c'est impossible.
Parce qu'ils jettent une balle comme ça pour voir la réaction des gens. Et comme maintenant les gens les citoyens, ça leur dire plus rien à la politique, donc ils les laissent faire. Et donc
vous ferez quoi la prochaine fois s'il y avait Macron, Le Pen?
Moi, je vous dis une chose. S'il y avait la gauche de Hidalgo et la clique, et fort, entre ceux-là et Marine Le Pen, je vote Marine Le Pen.
Vous êtes nombreux à vouloir voter Marine Le Pen. Hein. Ils sont de plus en plus nombreux dans les quartiers populaires.
Mais parce qu'ils veulent sanctionner cette gauche.
Ouais, j'ai l'impression.
Mais c'est pas un vote d'adhésion.
C'est un vote de soutien.
Adil, j'ai connu des gens de gauche qui sont pires. Moi, j'habite dans le Sénat.
Bon, alors attendez. Merci, Fatima. Fatima, merci infiniment.
Voilà. Je vous remercie.
Mais je vous embrasse. Je vous embrasse.
Merci.
Jessica Longuer.
Bonne fête, Adil.
Merci, bonne fête de fin d'année aussi. Comme elle, ils sont nombreux à le penser de plus en plus que finalement, pour tacler toutes les familles politiques, pourquoi pas les tester finalement? Chaos pour chaos, ils disent oh, allez, testons Le Pen.
Mais le foutu pour foutu, c'est pour tout le monde pense un peu la même chose dans le foutu pour foutu.
C'est la politique
mais
de moi, la terre brûlée.
Je vais quand même vous dire, parce que vous avez posé la question sur aller ou la gauche.
Oui,
mais la gauche, c'est avant tout un idéal. Et cet idéal-là, on se positionne et on vote en conséquence de cause. Et aussi, je vais dire du coup à la chère consoeur, que c'est aussi tenir des positions. Ce n'est pas parce qu'on est déçu. La gauche, c'est se battre jusqu'au bout. La gauche, c'est maintenir même lorsqu'on sait que c'est
trahison et mensonge.
Mais aujourd'hui,
c'est trahison et mensonge.
Je
pense pas qu'il y a lieu de s'inquiéter. L'histoire montre en fin de compte qu'en dehors de toute campagne électorale, la gauche a toujours été divisée. Mais six mois avant des élections importantes, comme les élections législatives ou présidentielles, elle va se réunir.
Chacun se retrouve dans son camp.
Voilà, chacun retrouve son camp.
C'est trahison et mensonge et stratégie pour pouvoir avoir des postes et penser qu'à soi et à leur psychopathe.
Non, personne de gauche.
Alors moi, attendez, deux secondes, ça m'étonne parce que Philippe, tu as été élu sur une liste de gauche qui était Europe Écologie Les Verts.
J'étais Europe Écologie Les Verts et c'est les autres qui sont alliés à nous.
Merci, Maître David Lebesquit. Bonne fête de fin d'année.
Bonne fête à vous aussi.
Merci
à
Jessica Longuer. Bonne fête de fin d'année. Merci à Minsa. Bonne fête de fin d'année.
Merci et bonne fête de fin d'année à l'ensemble des auditeurs.
Absolument. Merci Philippe.
À l'année prochaine.
Merci et bonne fête de fin d'année aux auditeurs et aux auditrices.
Merci à Solal à la réalisation. Bilan Nedman, c'est Time Sport 2021. Vanessa, 23h. Non, on me dit non. Tiens, Vanessa ne sera pas là ce soir. Bon, on vous souhaite. Alors, la semaine prochaine, il n'y a pas de programme donc de la radio puisque tout le monde est un peu en congé pour profiter de cette fin d'année. Famille. Profitez-en bien. Moi, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. On se retrouve à la rentrée, donc début janvier. On se retrouve à début janvier ?
Oui, forcément. Oui.
Chers amis auditeurs, vous avez été très, très, très nombreux. Merci à vous. Prenez soin de vous. Et surtout,
on lâche rien.
Et on se retrouve à la rentrée.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.